Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune, bienvenue à bord de l'émission Ensemble, l'émission qui est consacrée au monde associatif eurélien. Et aujourd'hui, je suis dans un lieu prestigieux, très bien entouré de Audrey Gervaux, qui est cadre supérieur au sein de la Fondation d'Aligre, et Marie-Cécile Fournier, qui en est la directrice. Cette Fondation d'Aligre, elle se situe à Lèves, dans un lieu prestigieux.
On peut le citer sur l'ancienne abbaye de Josaphat. Donc après, c'est un bâtiment, c'est un établissement public autonome de la fonction publique hospitalière, et c'est vrai qu'on a des bâtiments qui sont exceptionnels.
Oui, donc je parlais d'un château, mais vous n'êtes pas des châtelains en tout cas, hein, parce que la Fondation d'Aligre, c'est un lieu qui est quand même très connu aujourd'hui dans la région chartraine, puisqu'il emploie 300 salariés. J'étais très étonné d'apprendre cela.
Oui, un petit peu moins de 300 salariés, effectivement, avec des professionnels de différentes professions, autant des soignants que des personnels éducatifs, pour venir en accompagnement auprès de l'ensemble des résidents qui sont accueillis ici.
Alors, ces résidents, justement, ils sont de, si j'ose dire, de toute nature, parce que la Fondation d'Aligre abrite plusieurs foyers.
Oui, il y a le foyer de vie pour personnes adultes handicapées, où il y a 110 résidents et 25 places d'accueil de jour et un dispositif qui s'appelle le DAPI. Il y a le foyer d'accueil médicalisé où il y a 51 lits, 2 places d'accueil temporaire et 4 places d'accueil de jour. Il y a l'EHPAD où il y a 48 lits, 2 places d'accueil temporaire, 10 places d'accueil de jour, et la plateforme de répit d'accompagnement pour les aidants familiaux qui va ouvrir au 1er février 2019. Et le foyer d'accueil médicalisé pour personnes handicapées vieillissantes qui comprend 70 lits.
Donc diriger une telle structure, waouh, c'est du 24 heures sur 24, non ?
Non, quand même pas. Et c'est toute une équipe de direction qui est composée de 2 cadres supérieurs et de 2 attachés d'administration. Donc c'est une équipe de direction qui est bien dotée. Et de ce fait, on se partage les nombreuses tâches de la gestion de cet établissement.
Audrey Gervaux, vous êtes, vous, cadre supérieur. Quelles sont exactement vos fonctions ?
Alors, la fonction du cadre supérieur au sein de la Fondation d'Aligre est d'être dans une fonction de ressources déjà pour la direction, dans les orientations et décisions à prendre, de pouvoir piloter l'ensemble de ces établissements et encadrer du coup l'ensemble des professionnels qui y travaillent, de faire ce travail en collaboration aussi avec les cadres de chaque service, de manière à ce que l'accompagnement et des résidents et des équipes au quotidien puisse se faire dans les meilleures conditions.
Alors, la Fondation a une histoire très, très ancienne, puisque ça a commencé réellement par ce qu'on appelle un asile au XIXe siècle.
Oui, une ouverture par la famille d'Aligre d'un asile en 1828, destiné à pouvoir accueillir essentiellement des orphelins, des personnes en difficulté, des personnes âgées. Ça a été une évolution progressive hein, sur cette structure qui a aussi à une période été encadrée par des sœurs pour progressivement arriver à une fonction beaucoup plus ouverte et publique telle qu'elle le configure aujourd'hui.
Ouais. Quelle est la différence entre une association et une fondation ?
Ben, en fait, une association, c'est les associations de loi 1901. Il y a des associations qui ont le nom de fondation aussi, sauf que nous, c'est l'histoire qui nous donne ce nom, Fondation d'Aligre et Marie-Thérèse. Mais on est un établissement public, en fait. On n'a que le nom de fondation. Donc, c'est vrai que Mme Gerbault l'a dit avant, c'est vrai que l'histoire de la fondation est riche. Faut savoir que la Fondation d'Aligre, elle est située sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc qui va de Lèves à Chartres.
Donc il y a quelques pèlerins parfois, que vous les voyez passer, oui.
Tout à fait, on a des visiteurs qui passent, qui viennent voir également les ruines de l'abbaye de Josaphat, hein, qui sont classées et pour lequel tout un dossier a été fait pour permettre aussi la mise en sécurité pour sauver les ruines de cette abbaye. Donc on a des visiteurs qui viennent voir les ruines de l'abbaye de Josaphat sur notre site.
J'imagine que vous avez de nombreux partenaires et de nombreux financeurs compte tenu de la taille et de la variété de vos missions, non ?
Alors, les financeurs, c'est surtout deux financeurs, le Conseil départemental d'Eure-et-Loire, au titre de l'aide sociale, donc qui finance une grosse partie au niveau du secteur handicap, et puis de l'Agence régionale de santé pour le forfait soins. Et sur l'EHPAD, il y a aussi les prix de journée d'hébergement qui sont soit au niveau de l'aide sociale pris en charge par le département, soit par les résidents eux-mêmes. Et c'est une grosse partie des résidents qui payent leur tarif hébergement au niveau de l'EHPAD. Ouais.
Donc il y a finalement plusieurs EHPAD, un EHPAD spécialisé. Est-ce que vous pouvez nous parler des résidents justement que vous accueillez ?
Alors sur l'EHPAD de la Fondation d'Aligne, nous avons deux unités d'hébergement permanent. Une unité dite ouverte, classique, comme on peut trouver n'importe quelle maison de retraite, dans laquelle on accueille du coup toute personne de plus de 60 ans qui le souhaite, quel que soit son état de santé, sauf à ce qu'elle doive être bien sûr totalement médicalisée, auquel cas on réoriente vers les services de soins. Une autre unité qui est une unité sécurisée, donc fermée, sans accès libre, on va dire, d'entrée et de sortie, de manière à pouvoir assurer la sécurité de personnes qu'on accueille du coup qui sont malades d'Alzheimer et qui sont souvent du coup à une étape de leur maladie où elles sont en déambulation et où du coup nous devons sécuriser du coup leurs allées et venues de manière à ce qu'ils ne se retrouvent pas en difficulté par ailleurs. 24 résidents sur chacune de ces unités. Qui sont hébergés pour la plupart en chambre double et pour lesquels, du coup, n'importe quelle personne peut faire une demande d'admission en passant par le biais de la plateforme Internet via trajectoire.
Est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens qui frappent à votre porte ? On sait que les lieux d'accueil pour les malades d'Alzheimer ne sont pas très nombreux en France aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une file d'attente ?
Oui, sur l'unité Alzheimer, on a des dossiers qui sont quand même en nombre sur via trajectoire, bon, sur les deux unités, mais particulièrement sur l'unité protégée, parce que c'est effectivement on manque de place et c'est pas toujours facile pour les familles de trouver une unité protégée près de chez eux, quoi.
J'imagine que ça présente des difficultés particulières, évidemment, d'accueillir des gens qui sont malades d'Alzheimer. Ils doivent être, j'imagine, très entourés.
Ils sont très entourés en général par leur famille. C'est aussi pour ça que, du coup, c'est développé en parallèle de l'hébergement permanent un accueil de jour, de manière à ce qu'on puisse proposer quelque chose aux aidants familiaux dès le début de la maladie. Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir accueillir les personnes en journée, de manière à ce que les personnes aidantes au domicile, elles, puissent prendre un peu de répit. La prise en charge et l'accompagnement, du coup, de ces malades d'Alzheimer, que ce soit sur l'hébergement permanent ou sur cet accueil de jour, vise aussi à pouvoir stimuler au maximum la personne atteinte de cette maladie, parce que on sait que plus nous stimulerons les personnes, plus on retardera l'évolution de la maladie.
Beaucoup de personnel autour de ces personnes ?
Oui, des infirmières, des aides-soignants, des agents en soins hospitaliers. Nous avons une maîtresse de maison aussi sur chacune de ces unités, de manière à ce qu'elle puisse veiller aussi à cette quotidienneté des personnes. Un médecin qui intervient chaque semaine pour rencontrer l'ensemble des résidents. Et puis une cadre, bien évidemment, qui encadre tout ça. Un kiné qui intervient ponctuellement aussi en fonction des besoins. Et une psychologue qui est aussi à disposition pour pouvoir rencontrer les résidents et les familles si elles le souhaitent.
Alors les EHPAD ou EHPAD spécialisés qu'on appelait autrefois, je le rappelle, les maisons de retraite ont évidemment bien changé. Il ne s'agit plus seulement d'offrir un toit et puis des repas chauds à des personnes. Il y a de nombreuses activités qui leur sont proposées, j'imagine.
Au quotidien, nous proposons des activités aux personnes, parce qu'il faut rappeler quand même qu'un EHPAD, c'est un lieu de vie. C'est vraiment l'espace dans lequel les personnes résident. Donc, quand on vient à l'EHPAD, on vient chez eux. Et c'est vraiment important de se le rappeler. Du coup, dans cette vie au quotidien, l'idée, c'est de pouvoir aider les personnes à garder un lien social, que ce soit en interne à la fondation ou en allant sur l'extérieur, et de pouvoir leur proposer, du coup, des activités qui leur permettent d'occuper leur journée, de se sentir utile aussi parfois. On les sollicite des fois dans la vie quotidienne de la structure, de manière à ce qu'elle garde un maximum de place et de dignité aussi dans la façon dont elle réside ici. Ouais.
Quelles sont les activités proposées alors, du coup ?
Alors, tout type d'activité, ça va être des sorties vers l'extérieur. Par exemple, cet été, nous avons organisé plusieurs soirées dans le cadre de Chartres Estival. Ça peut être des visites d'établissements. Il y a une visite dernièrement de la caserne des pompiers, pour vous donner des exemples. Des séjours vacances qui sont organisés tous les ans, de manière à pouvoir permettre aux personnes de partir en vacances lorsqu'elles n'en ont pas l'occasion de le faire avec leur famille. Et puis, des activités au quotidien. Alors, ça va de l'activité manuelle à celle de la relaxation, du bien-être, du chant. On organise aussi des spectacles au sein des unités, de manière à ce que les personnes participent à des moments festifs, conviviaux, des repas animés, des chorales qui viennent. Enfin voilà, c'est très varié. Et puis on a mis en place aussi des partenariats avec des structures scolaires, élémentaires et lycées, de manière à ce qu'il y ait aussi des rencontres intergénérationnelles au sein de l'établissement.
Ce sont pour les résidents aussi atteints de la maladie d'Alzheimer.
Oui, bien sûr, ouais. Bien sûr, et c'est très important parce que du coup, les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, on le sait, ont souvent des souvenirs plus anciens que récents, et du coup, le fait de pouvoir partager sur des éléments comme ça les amène eux aussi à stimuler leur mémoire cognitive sur ces souvenirs dont qu'ils ont encore, et ça permet vraiment des moments extraordinaires. Oui, c'est vraiment extraordinaire. Autant pour les jeunes que pour les personnes âgées qu'on accueille.
Je vous pose une question un peu provocatrice. Est-ce que Alzheimer doit être forcément égal à souffrance, ou est-ce qu'il y a des moments de bonheur, des moments de joie pour un malade d'Alzheimer ?
C'est avant tout des moments de bonheur, des moments de joie, parce que déjà les personnes à Alzheimer, certaines se rendent compte de leur état, et là c'est plus de la souffrance, mais bien souvent ils ne se rendent pas compte de leur état, et ils vivent pleinement l'instant quotidien. Donc le personnel partage de véritables moments de vie, des moments de bonheur, des moments de peine aussi avec les résidents, mais c'est vraiment une vie au quotidien, et alors, c'est intéressant.
On dit qu'aujourd'hui, évidemment, il y a de plus en plus de cas de maladie d'Alzheimer. Ça veut dire que vous êtes obligé d'agrandir la structure. Est-ce que vous y pensez? Est-ce que vous projetez dans l'avenir?
Oui, on va construire sur un terrain appartenant à la Fondation d'Aligre, sur l'Ève, un nouvel EHPAD qui va comprendre 97 lits. Donc on va garder les 24 places d'unités fermées et puis agrandir l'EHPAD dit classique. Et donc on double notre capacité d'hébergement. Dans un bâtiment neuf, aux normes actuelles, que des chambres à un lit. On va prévoir également des chambres permettant de recevoir des couples. Et puis, sur ce bâtiment neuf, sera intégré l'accueil de jour, la plateforme de répit et d'accompagnement. Et puis, on va prévoir des locaux pour éventuellement, plus tard, faire un pôle d'activité de soins adaptés, qui va permettre aux résidents de l'EHPAD de travailler tout ce qui est encore plus les capacités cognitives et le maintien de l'autonomie et de ses capacités.
Le but, c'est effectivement de faire en sorte que les malades d'Alzheimer, ou apparentés, hein, on ne l'a pas dit, mais il y a d'autres types de maladies comme celle-ci. Je crois que d'ailleurs que vous accueillez des gens qui ont la maladie de Parkinson, par exemple, non ?
Alors oui, pas sur l'unité du coup en question. Les personnes qui sont atteintes de la maladie de Parkinson vont plutôt aller sur l'unité ouverte. La particularité de l'unité protégée, c'est vraiment de sécuriser cette question de la déambulation. Une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer peut tout à fait être accueillie dans un EHPAD classique, dès lors qu'il n'y a pas ce problème de déambulation. Les malades d'Alzheimer en général sont accueillis dans des EHPAD sans unité sécurisée. Hein. Les autres types de pathologies qui sont accueillis sur cette unité sécurisée sont bien des types de démence apparentés à la maladie d'Alzheimer. Dans le cadre d'un autre dispositif dont nous parlerons tout à l'heure, effectivement, nous reviendrons peut-être sur cette question de la maladie de Parkinson.
Alors, j'ai pas terminé de poser ma question tout à l'heure, je m'en rends compte maintenant, mais est-ce que le but c'est de faire en sorte que les personnes gardent le plus tard possible leur faculté cognitive, une partie de leur faculté cognitive?
Bien sûr, cognitive et motrice, parce que la maladie d'Alzheimer ne touche pas que la question de la mémoire, elle atteint aussi la question de la motricité à un stade de la maladie, donc c'est important qu'on essaie de maintenir au maximum les personnes dans ces capacités-là. On essaie de les amener à œuvrer aussi avec nous sur des temps de vie quotidiennes, que ce soit le pliage du linge, utiliser un atelier de cuisine thérapeutique, les ramener dans leur vie quotidienne un petit peu, ça c'est des éléments importants. Et puis la Fondation a fait aussi le choix de travailler ce qu'on appelle en humanitude sur cet EHPAD, qui est une forme d'approche hein, dans le travail et d'accompagnement en soins des personnes âgées, et qui permet aussi de prioriser cette question de la verticalisation des personnes qu'on accueille, parce qu'on pense que plus on va aider les personnes à rester verticales, droites, debout, même si c'est temporairement chaque jour, ça permet de retarder aussi l'état de grammatisation qui risque d'arriver à suivre.
Oui. On va en parler de la plateforme maintenant, il nous reste 10 petites minutes. Donc il s'agit d'une plateforme d'accompagnement et de répit pour les aidants familiaux. Donc ce ne sont pas pour les malades, ce sont pour ceux qui accompagnent les malades et qui ont besoin de soutien.
Oui, c'est donc cette plateforme qui va permettre d'octroyer du répit aux aidants familiaux qui s'occupent d'un proche à domicile pour leur permettre d'avoir une bouffée d'oxygène dans cet accompagnement qui est pas facile au quotidien. C'est fatigant, c'est aussi, il y a une forme d'usure à s'occuper d'un proche tous les jours. C'est pas des professionnels, même s'ils sont aidés par des services de soins à domicile, mais c'est quand même une charge 24 heures sur 24. Et ces aidants ont besoin de moments de répit pour souffler, pour leur permettre aussi de pouvoir accompagner leurs proches le plus longtemps possible à domicile et retarder l'entrée en établissement. Hein, parce que c'est vrai qu'un couple qui vit à la maison, quand un des deux doit rentrer en établissement, ben c'est un déchirement et de ce fait, ça permet aussi d'aider ça. Donc la plateforme, elle va justement permettre aux aidants de pouvoir avoir du répit, du temps pour eux. Et cette plateforme, elle est dédiée aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et maladies apparentées, mais également toutes les maladies neurodégénératives telles que la maladie de Parkinson. Également, les aidants s'occupant d'un proche atteint de la maladie de Parkinson pourront aussi bénéficier de la plateforme de répit.
Alors, cette plateforme, il y aura une partie ici à la Fondation d'Aligre, à Lèves, mais elle se délocalisera en deux autres lieux.
Oui, puisque du coup, nous ferons, parmi les différentes prestations qu'on proposera dans le cadre de cette plateforme, il y aura du coup le répit à domicile. Nous aurons du coup un assistant en soins en gérontologie qui ira au domicile s'occuper de la personne aidée pour que l'aidant justement puisse disposer d'un peu de temps pour lui. Autre type d'intervention, le répit, ce qu'on appelle le répit itinérant, donc où on invitera du coup les aidants à venir nous rencontrer sur Lèves, bien évidemment, mais aussi sur les sites de Voves et Janville, de manière à ce qu'on puisse là aussi s'occuper de leur malade de proches et de pouvoir, eux, disposer de temps ou participer avec nous à des ateliers, le cas échéant, quand ça se présentera également, parce que les aidants ont aussi besoin de prendre du temps pour eux, y compris dans des formes de loisirs ou de bien-être qui peuvent leur être propres. Nous proposerons aussi un espace qui visera à pouvoir informer, accueillir et orienter les aidants, parce que nous nous sommes rendus compte que finalement s'occuper d'un proche au domicile, c'est une chose, mais ça nous met parfois dans une situation d'isolement, et la question du coup de la connaissance des droits qu'on peut avoir pour obtenir des aides par exemple au domicile, c'est un vrai problème. Donc l'idée, c'est de pouvoir accueillir les aidants, qu'ils nous exposent un petit peu leur situation et qu'on leur dise à partir de ça, vous pouvez vous rendre à tel endroit, rencontrer telle personne pour tel type de dispositif. Et on essayera du coup de donner une réponse vraiment singulière aux personnes qui se présenteront. Les dernières choses, c'est de pouvoir proposer aussi sur le site de l'EV des ateliers soit pour les aidants, soit pour les aider, soit pour eux ensemble, pour pouvoir vivre aussi des expériences partagées qui soient différentes de celles qu'on vit à la maison, qui sont parfois difficiles et qui là puissent être du coup sur une connotation beaucoup plus positive.
Et puis ça peut aussi donner des idées aux aidants pour faire des choses à la maison aussi.
Bien sûr, l'idée ce sera aussi de pouvoir utiliser par exemple un espace de cuisine thérapeutique ici pour que les aidants se rendent compte des capacités que peuvent avoir encore leurs proches au domicile, de pouvoir partager aussi des espaces extérieurs peut-être ensemble, des formes d'activité. L'idée c'est de revenir quand même sur des formes un petit peu d'épanouissement aussi pour l'aidant qui permet du coup de retrouver une énergie pour mieux s'occuper encore et être encore plus disponible pour son proche au domicile.
Et puis l'épuisement guette hein, souvent les aidants, il n'est pas rare par exemple que l'aidant meurt avant l'aider, et alors là c'est le drame, la tragédie là.
Ça arrive effectivement, et du coup la question se pose après de l'après, bien évidemment, puisque la personne malade au domicile ne peut pas y rester la plupart du temps. Donc la question se pose d'emblée de l'admission vers un établissement. Ce sont des sujets qu'on essaye du coup d'aborder avec les personnes quand on peut le faire, parce que c'est des choses auxquelles ils pensent parfois quand ils se savent malades, et puis des fois pas. Et c'est vrai que la question de l'orientation éventuelle, en tout cas de pouvoir faire une demande de dossier, même si c'est pas pour tout de suite et que ça se projette dans le temps, ça fait partie des choses sur lesquelles il faut se préparer.
Oui. Alors, cette aide, cet appui que vous allez offrir aux aidants, ce sera à quel rythme, si j'ose dire ?
Alors, il va y avoir du répit à domicile dans un rayon de 15 km autour de Chartres tous les matins, du lundi au vendredi. Et les accueils et les répits sur Lève, Janville et Vauve, il y aura une demi-journée par semaine sur les trois sites.
Ouais. Donc une demi-journée, toutes les semaines, quelqu'un peut venir une demi-journée pour avoir du répit, ou est-ce que là encore, il y aura évidemment peut-être une file d'attente, quoi, c'est ça, non ?
Ben, tout dépend du succès de la plateforme, et les besoins sont tellement importants, j'espère que les aidants vont se saisir de ce nouveau service. Et après, ben, on va faire des réservations en amont, parce qu'on pourra pas accueillir 15 personnes en même temps. Et puis, on étalera un petit peu pour que si une semaine, c'est certaines personnes qui ont eu le répit, que ce soit pas les mêmes la semaine d'après, etc. Et dans l'idée, c'est d'essayer de prioriser aussi, des fois, certains rendez-vous, certains besoins. Et puis, tout à l'heure, vous parliez de la mort de certains aidants, mais il y a aussi, des fois, la maladie, l'hospitalisation. Donc, et là, c'est pareil. La plateforme aura pour vocation de trouver des solutions en urgence. Et au niveau de la fondation, sur l'accueil de jour et l'hébergement temporaire, on réservera une place d'urgence, que ce soit de l'hébergement temporaire ou de l'accueil de jour, pour permettre de pallier à cette hospitalisation également.
Pour l'instant, il n'y a rien de prévu en Eure-et-Loire pour ce genre de situation d'urgence. Quand un aidant est hospitalisé, qu'est-ce qu'il advient de l'aider ?
Bah, ça dépend du type d'aide qui existe déjà au domicile. Il arrive que le nombre d'heures d'aide au domicile puisse être augmenté. Et puis il y a des dispositifs d'hébergement temporaire, comme celui sur lequel on appuie du coup cet accueil d'urgence, qui permet du coup aux personnes malades d'être accueillies pendant quelques temps, le temps que le proche se soigne, subisse éventuellement une intervention chirurgicale, voilà. Et donc on accueille sur cet hébergement temporaire les personnes pour qu'elles puissent ensuite retourner à leur domicile avec leurs proches si elles le souhaite.
Alors, précisons tout de suite que cette plateforme d'accompagnement ne bénéficie qu'aux gens âgés de plus de 60 ans, hein, c'est ça hein.
C'est bien ça. Plus de 60 ans, donc avec atteint de la maladie d'Alzheimer, maladie neurodégénérative, d'une façon générale. Donc on parlait tout à l'heure de Parkinson, ça peut être aussi une sclérose en plaques, une maladie de Charcot. Il y a d'autres types de maladies du coup apparentées. Le seul élément, c'est maladie de neurodégénérative d'une façon générale.
Dernière question, il en coûtera combien aux aidants ?
Alors la plateforme de répit est financée intégralement par l'Agence régionale de santé, donc par le biais d'une dotation qui est versée à l'établissement. Donc le répit est complètement gratuit pour les aidants familiaux. Après, il peut y avoir une participation si on met en place des activités, des séjours, des sorties. Mais ce sera la seule participation demandée. Le répit en tant que tel est financé donc par l'Agence régionale de santé.
Excellente nouvelle. Donc, la plateforme ouvre au mois de février. Ça m'intéresse. Comment je fais ?
Il faut du coup contacter la fondation en vous attachant à appeler Madame Matz qui est cadre sur ce service au 02 37 36 96 70. Nous ouvrons la plateforme à partir du 1er février et nous commencerons progressivement, notamment en proposant un peu de répit à domicile, quelques temps d'information et d'orientation. Et à partir du mois de mars, du coup, nous ouvrirons plus largement les différents dispositifs dont on a parlé.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci.
Are tired.